On va prendre l'Ancien Testament. On va démarrer Néhémie, pour être précis. Alors écoutons simplement la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment, et qui respecte tes commandements. Je t'en prie, prête une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnez à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Seigneur, parle. Seigneur, parle-nous, interpelle-nous. Seigneur, visite-nous par ton esprit pour la gloire de ton nom. Amen. Il faut que ça change. Alors, 2019, hein, on a parcouru début de l'année, je sais pas si vous vous rappelez, la première portion du livre des Actes qui nous présentait le développement des premières églises à la suite du départ de Christ. Et on avait découvert de façon tellement extraordinaire la manière dont Dieu était intervenu concrètement dans la vie de ces églises, dans la vie de ces personnes, la puissance du Saint-Esprit qui se déversait sur ces premières communautés, par la bouche des apôtres, par des communautés radicalement unies autour de Christ, prêts à en payer le prix. Ils avaient été même attaqués, dispersés, mais Dieu avait agi. Et en parcourant Actes à plusieurs reprises, on s'était interrogé, est-ce qu'elle reste sans effet chez nous, aujourd'hui, plusieurs siècles après? Il faut que ça change. Si Dieu agissait véritablement, nous ne serions pas là. Ainsi, nous ne serions pas là ainsi comme on en est. Ça fait des années que nous attendons que ça change. Parfois, on est dans ces réflexions-là. Que Dieu intervienne. Et je me réjouis particulièrement de voir Néhémie parce que quelque part, on reste dans cette même direction. Le livre de Néhémie, on revient en arrière par rapport à Actes, de quelques siècles. Et le livre de Néhémie, c'est les dernières pages, quelque part, de l'Ancien Testament. Entre Néhémie et l'arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, et puis après les Actes, il y a un trou. Néhémie, on va voir combien Dieu intervient pour transformer des vies. Il faut que ça change en profondeur. Avec cette question, je voudrais nous interroger. On est venu ce matin avec quel désir? Est-ce qu'on est venu avec ce désir que Dieu nous interpelle, que Dieu nous touche, que Dieu nous façonne, que Dieu nous interpelle? On veut venir à sa rencontre. Vous êtes peut-être de ceux, peut-être comme moi d'ailleurs, qui venons avec une liste en tête et se dit « Ah Seigneur, tu vois tout là, tous les domaines où je voudrais que tu agisses, ou que tu interviennes, ou que tu répondes, ou que tu conduises. Je voudrais voir Dieu à l'œuvre, dans notre couple, dans notre famille, dans notre église peut-être dans notre ville, on voudrait que ça bouge pour Christ. On voudrait peut-être qu'en France, on est un peuple qui se lève pour Christ. On voudrait peut-être que dans le monde, le nom de Jésus-Christ soit honoré et ne soit pas bafoué. Dieu, où es-tu? Et c'est la question du livre de Néhémie. Dieu intervient, Dieu vient intervenir, et c'est ce qu'il va faire. Et on va voir un réveil quelque part exceptionnel. Dieu va intervenir au travers. Alors on y va, vous êtes prêts à y aller dans le livre de Néhémie? Reprenons. Il faut que ça change. Reprenons au verset 1. Tout commence par, vous l'avez lu, durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale. Tout commence le mois de Kisleu. C'est le mois de novembre-décembre. On est au 20e siècle, au 20e année pardon, du règne d'Artaxerxès. Donc ça veut dire, on est l'Empire Perse, la grande puissance du monde d'alors. C'est toute la zone orange que vous voyez. On est en environ moins 446 avant Jésus-Christ. Et vous l'avez vu, le récit commence dans cette capitale. C'est une capitale en tout cas hivernale de ce royaume, Suse, une forteresse. D'ailleurs à Suse, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'endroit où se passe l'histoire d'Esther. Et bien évidemment, nous sommes en présence d'un personnage, Néhémie. Et on le verra, tout au long de ce parcours sur Néhémie, on voit que Néhémie, c'est un homme d'exception, un homme d'action, un homme qui côtoie, qui conseille les grands, notamment de cet empire, mais les grands de cette région. Néhémie est un homme qui est auprès de l'homme le plus puissant de l'époque, de l'histoire de ce monde. L'Empire perse qui domine toute la région du Proche-Orient. On pourrait dire que c'est un haut cadre de la fonction publique, un juif d'origine. Et on dirait un gars issu de l'immigration. Alors pour vous mettre un peu la peau dans le Néhémie, c'est comme si vous étiez mexicain et que vous étiez devenu secrétaire de la Maison-Blanche. Ou que vous étiez algérien et que vous êtes venu en France dans les années 60 et aujourd'hui vous serez premier ministre ou secrétaire d'État. C'est un peu ça. Néhémie, un homme de réussite. Et c'est pour ça qu'on peut s'identifier. Il a un métier, il a un engagement. C'est pas un apôtre, c'est pas un missionnaire, c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète. Et malgré sa position, malgré son travail de haut fonctionnaire, et peut-être parce qu'il est haut fonctionnaire, Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser. Comme personne d'autre à son époque. Mais on l'a vu déjà dans cette lecture, il a une vision théologique de Dieu, il a une compréhension de Dieu incroyable, éblouissant. Un homme qui avait des moyens, un homme qui a de l'argent, vous le verrez dans les semaines à venir. Mais un homme qui s'est consacré sans aucune ambiguïté à la gloire de Dieu. En parcourant cette série sur Néhémie, je prie que Dieu se serve de ce livre pour lever parmi nous des Néhémies. Des gens qui quelque part vont bien, des gens qui ont un métier, des gens qui ont un travail, des hommes et des femmes qui s'en sortent bien, qui ont peut-être une vision aussi biblique claire et qui veulent vivre pour Dieu et qui vont quelque part bouleverser leur époque. Parce que c'est Néhémie, c'est ce qu'il va faire. Il va bouleverser son époque. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on va prendre un peu de temps aussi dans le contexte. De l'autre côté, une situation complètement, diamétralement opposée à celle de Néhémie, c'est celle de son peuple dont il est issu. Un peuple en déclin, un peuple dispersé. Alors j'ai fait un petit schéma pour essayer de montrer les grandes lignes de là où on en est aujourd'hui, au moment où ce texte est écrit, Néhémie. Et c'est des indications importantes pour comprendre le texte qu'on va parcourir tout au long des semaines à venir, et de toute la richesse d'ailleurs. On revient cinq siècles avant Néhémie, c'est l'âge d'or d'Israël. Un peuple uni, prospère, sous David, sous Salomon, un royaume uni, un territoire précis, des biens en quantité, un temple extraordinaire. On venait du monde entier de l'époque pour le voir. Mais rapidement, le royaume se divise en deux entités. 10 tribus de l'un, 2 de l'autre, Judas de l'autre. Des mauvais rois. Dieu est oublié. Des idolâtres, des guerres, des famines, des temps difficiles. Et Dieu accorde dans cette période des hommes extraordinaires, des prophètes qui vont proclamer inlassablement la fidélité de Dieu, l'intervention de Dieu. Ésaïe par exemple, pour qu'ils reviennent à lui. Et puis un jour, pour Dieu, ça suffit. Et d'abord le royaume du dehors, déportation, emmené en captivité par les Assyriens, une grande puissance de l'époque. Les 2 tribus de Juda que vous voyez en dessous sont préservées pour un temps. Ils ont un exemple devant leurs yeux, mais ça ne leur suffit pas. Quelques années après, c'est eux-mêmes qui sont déportés, emmenés en captivité, mais cette fois-ci par l'Empire babylonien. La fière capitale de Jérusalem est détruite. Le temple est détruit. On est environ aux alentours de moins 586 avant Jésus-Christ. On est au plus bas de l'histoire du peuple juif. Et très probablement, les grands-parents ou les parents de Néhémie sont partis en captivité, ont été déportés, ont été emmenés loin de ce petit pays d'Israël. Donc une situation où le peuple de Dieu est dispersé dans le monde d'alors, dans ce grand empire. Ils sont minoritaires, ils sont méprisés, ils perdent quelque part leur identité, ils sont regardés de haut, ils sont engloutis dans un empire qui est fier, qui est riche, qui marche, qui a du succès, qui a des conquêtes. C'est un peu comme nous. On est petit. On n'est pas nombreux dans ce monde qui marche, qui est opulent, et j'en passe. Et c'est dans ce contexte que Dieu va agir. Après 70 ans de captivité, Dieu permet un retour d'un reste. Et dans cette période-là, l'Empire perse renverse l'Empire babylonien, parce que bien sûr, la géopolitique, ça continue. Dieu est à l'œuvre et renverse les grands. Dieu permet un retour d'un reste. 70 ans se passent encore, et Dieu va relever la ville, puis le peuple, et va susciter Néhémie. Dieu va susciter Néhémie. Mais si on revient simplement, c'est pas juste à Néhémie qui a ce retour. 90 ans, par contre, avant, il y avait Esdras. Et ça, vous le voyez dans le livre d'Esdras, qui est juste avant Néhémie, les pages avant. C'était un livre en entier, d'ailleurs, à l'époque. On considère nos Bibles modernes, l'ont séparé, mais Esdras et Néhémie, c'était probablement un livre historique qui racontait cette période de retour. Dans Esdras, Dieu a suscité deux autres hommes, deux leaders clés, Zorobabel, puis Esdras. Zorobabel, c'est lui qui va rentrer et reconstruire le temple. On voit ça dans Esdras 1 à 6. 60 ans après, il y a Esdras qui est suscité, et lui va reconstruire, il va parler de la parole de Dieu, va revenir à la Torah, à l'enseignement, et il va redonner une identité à ce peuple. On voit ça dans Esdras 7 à 10. Et puis après, Dieu suscite Néhémie. Et Néhémie va être celui qui va reconstruire la ville de Jérusalem. C'est bon ? Je ne vous ai pas perdu un peu dans ce rapide survol pour nous ancrer. Et on est là à Néhémie. Et tout commence à 1000 kilomètres de Jérusalem. À vol d'oiseau, mais à dos de chameau ou de cheval, ça fait peut-être plutôt 2000. C'est comme si à vol d'oiseau, on allait chez Amalia et Nathanaël en Croatie. Ça va, c'est pas trop loin, en avion. Mais pour les moyens de l'époque. Et donc ça commence avec un homme, Néhémie, à 1000 kilomètres de Jérusalem. C'est comme Dieu, si Dieu était en train de travailler dans le cœur d'Amalia et Nathanaël pour quelque chose d'ici. Vous imaginez un peu ? Qu'on va voir dans ce texte que cet homme, il a le cœur touché et qui va engager quelque part une prière passionnée, extraordinaire. Alors venez avec moi. Verset 2. Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Néhémie, grand fonctionnaire, parcourt la capitale et voilà qu'on revient d'un pays lointain, d'un endroit où probablement Néhémie n'a jamais mis les pieds, jamais visité, une ville qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas Google, il n'y a pas Internet, il n'y a pas des photos pour nous dire ce qui s'est passé à Jérusalem les années avant. Il y a le témoignage oral. Il y a des personnes qui reviennent de cette ville, de ce bled, parce que c'est un village, à ce moment-là jamais visité, et Néhémie aspire à des nouvelles. Il veut connaître l'état de cette ville. Il veut connaître l'état de ces personnes. Mettez-vous dans la peau de Néhémie. Des siècles sont passés. Mais les Juifs, on est dispersés. On a été réduits en cendres par un empire puissant. On ne va pas regarder en arrière, c'est le passé. Vous ne trouvez pas quand, voilà, maintenant... On ne va plus pouvoir reconstruire, on est trop minoritaire, on est éparpillé. Est-ce que Néhémie vit la nostalgie du passé ? De dire, oh, de revoir la fierté nationale quelque part, transmise par ses parents ? Ne faut-il pas vivre avec son temps ? Non, Néhémie est préoccupé par son peuple, par la ville de Jérusalem, par la ville de son Dieu. Et les choses vont se compliquer, vous l'avez vu, hein, verset 3, le rapport, les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est des mauvaises nouvelles. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du désespoir. Les murailles de Jérusalem sont pleines de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Rien que dans les mots employés, c'est fort. Au comble du malheur, le désespoir, le déshonneur, c'est plein de brèches. On fait le rapport, l'état spirituel de ce peuple est à l'image de la ville, à l'image des murailles. Et Néhémie, en entendant ce témoignage, ça fait écho, ça fait réalité dans sa vie. Et ça a un effet direct sur ses sentiments. Vous l'avez vu, regardez avec moi verset 4. À cette nouvelle, je me suis assis. C'est comme si je m'asseyais là. J'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. En entendant cette nouvelle, pour Néhémie, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Il s'arrête, sa vie s'arrête. Vous allez me dire, Néhémie, c'est une petite nature. Vous savez, les artistes qui sont à fleur de peau, qui pour un rien sont émotifs. Mais quand on va parcourir le livre de Néhémie, c'est pas du tout ça. C'est un homme qui a de la poigne, un homme, un leader. Il sait où il va. Et quand il y a des difficultés, mais non, mais il est épris, il est touché. Le temps s'arrête. C'est un homme rempli de courage. La vie lui réussit. Hein. C'est un grand, un homme en tête carrément du pouvoir quelque part et tout s'arrête lorsqu'il entend les histoires de son peuple. Ce texte nous pose à nous la question de nos émotions, de nos réactions, de notre cœur. Comment on réagit quand le nom de Dieu est bafoué dans notre pays, quand on prend le nom de Dieu en vain? Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit l'état de l'Église, l'Église chrétienne dans le monde, peut-être l'état de notre Église? Est-ce qu'on est touché, pris dans nos tripes, quand on voit l'état de ce monde, l'état de l'humanité? Est-ce que c'est l'indifférence? On se fait une raison, c'est comme ça? Quand on voit la manière dont on traite nos semblables, les êtres humains, quand on voit cette pauvreté, ces immigrations, est-ce que ça nous touche? Quand on voit les sujets de la famille, les sujets éthiques qui sont abordés, est-ce qu'on est insensible? Vous êtes peut-être comme moi, on a d'autres problèmes. Les enfants malades, la réflexion sur le changement de voiture, le stress du travail, les questions d'avenir pour notre famille, nos finances, le changement de travail peut-être, l'orientation des études. On est peut-être dans des moments où le temps s'arrête. Et ce temps où Néhémie vit en termes d'émotion est fort. Et en tant qu'humain, on vit tous des moments comme ça. Des moments où on a l'impression que tout s'arrête, tout s'écroule, où les pieds semblent se dérober sous nous, sous nos pieds. On va tous connaître un jour, si vous n'avez pas déjà connu, des nouvelles où ça s'effondre. Une rupture, un échec sentimental, un licenciement, un décès, une maladie, un cancer, une trahison, etc. On arrive bien à imaginer le type d'émotion que Néhémie est en train de vivre. Mais, imaginez que Dieu suscite ce type d'émotion qu'on a dans les réalités de la vie à cause pas d'un souci personnel, pas d'un souci égo, pas d'un souci de notre petite vie, mais à cause de l'enjeu et de la gloire de Dieu. Et le livre de Néhémie commence comme ça. C'est Néhémie qui est touché dans son cœur, dans ses tripes, dans ses sentiments, à cause des intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu. C'est pas difficile de s'effondrer quand tout va mal, quand on est face à des défis, aux épreuves de la vie. Et Néhémie, tout va bien, hein, j'ai dit, c'est quelqu'un... Il n'a pas à se plaindre. Certes, il est immigré, on ne sait pas plus de détails, mais tout lui sourit. Mais dans cette situation-là, quand il entend l'état de son peuple, à l'honneur de Dieu, il tombe à genoux. Il tombe à genoux, littéralement. Son cœur est sensible. Son cœur est sensible, mais il est sensible à quoi? Aux intérêts de Dieu. Et sa première réaction à cette mauvaise nouvelle, il prie et il jeûne. Il prie et il jeûne. Lui, un homme d'action, on le verra. Mais avant d'agir, il va prier. Il va se placer devant Dieu. Et c'est la suite de ce texte. Tout commence par une prière qui est extrêmement passionnée. Et c'est une prière qui va durer. Nous, on a quelques versets, quelques mots mis bout à bout sous les yeux. Ce n'est pas juste notre rencontre hebdo du mardi, une heure, montre en main, ou une veillée de prière, ou une nuit de prière, ou une semaine de prière. Ici, c'est 3-4 mois qui se passent entre le mois de Kisle, hein, c'est le chapitre 1, le verset 1 du chapitre 1, et le mois de Nissan, le verset 1 du chapitre 2 qu'on lira la semaine prochaine, dans 15 jours. Ça veut dire du mois de novembre-décembre à Marsaville, 3 mois. 3 mois où Néhémie est en train de demander Dieu de se positionner devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il va demander? Mettons-nous à sa place. Il entend des mauvaises nouvelles, il est touché dans ses tripes. Son cœur est touché, brisé. Qu'est-ce que moi j'aurais prié? J'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'aurais prié dans cette situation? Seigneur, au secours! Viens à mon aide, guéris mes blessures! Regarde mon cœur blessé! Regarde comme il souffre! Relève-moi! Encourage-moi! Ici, dans ces quelques versets, on a une des confessions des intercessions les plus touchantes de la Bible. Il commence, regardez au verset 5, verset 5, il se souvient de qui, devant qui il se tient. J'ai dit Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand! Et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. C'est une prière devant Dieu. Sa prière, il la commence pas comme bien souvent moi je la commence. Dieu du ciel, Dieu grand, redoutable, toi qui conserves ton alliance jusqu'à plusieurs générations. Quand on dit ça, est-ce que ça va pas un peu mieux de rappeler qui est Dieu? Dieu créateur, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu éternel. En nous rappelant devant qui on se présente, devant qui je me tiens, devant qui je prie, on se souvient de qui est Dieu. Le problème, sa souffrance, elle est remise en perspective. Elle est remise en perspective devant qui nous nous tenons. Pendant des années, j'ai lutté avec un problème de confiance en moi-même. J'avais du mal. Dieu m'appelait, Dieu m'encourageait à faire des choses. Mais je lui ai dit non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Seigneur. Tu vois mon caractère, tu vois ma timidité, tu vois tous mes obstacles. Mais ce problème de confiance en moi, c'était un problème parce que je manquais quoi? De confiance en Dieu. Quand on a peur, quand on panique, c'est toujours le reflet d'une instabilité, quelque part d'une incrédulité. On est en train de montrer, quand on est tremblant, hésitant, qu'on croit plus à nos soucis, à nos difficultés qu'en Dieu. Nos soucis nous noient. Et des fois, on est dans du quotidien, nos soucis nous noient. Nos inquiétudes nous submergent. Nos problèmes sont grands. Mais pourquoi nos problèmes sont grands ? Parce que notre Dieu est petit, mes amis. Nos problèmes sont grands parce que notre Dieu est petit. Si on est comme Néhémie, on voit notre Dieu au ciel, tout puissant, qui est créateur, qui a tout entre ses mains, qui connaît le passé, l'avenir et le présent. Ouh, vous ne trouvez pas que c'est libérateur, nos soucis, de savoir qu'on peut lui parler, qu'il voit, il connaît, il sait. C'est vrai, on va découvrir un homme exceptionnel. Mais il est comme vous et moi, mais c'est un homme exceptionnel parce qu'en fait, il a un Dieu exceptionnel. Et il sait où regarder. Parce que c'est d'abord la grandeur de son Dieu. Il sait devant qui il se tient et il s'attache à cela. Et c'est surprenant, hein, parce que c'est un homme qui est en déportation, qui est en captivité, qui n'a pas connu les époques fastueuses de David et de Salomon, avec un temple bien en place, avec une joie, une ferveur d'Israël uni. Surprenant, hein. Mais il ne se souvient pas simplement de qui est Dieu, mais il se souvient aussi de qui il est. Il ne va pas marchander Néhémie devant Dieu. Néhémie ne vient pas devant Dieu pour dire « Dieu intervient, fais ceci, alors je ferai ça pour toi. » Pour toi. Néhémie n'est pas en train de dire « Dieu, regarde, je suis un des grands. Je suis pas loin de l'empereur. Agis, utilise-moi. Regarde ce que je suis capable de faire. » Il n'est pas en train de venir avec ça. Lisons verset 6. « Je t'en prie, prête une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. » Il est conscient de qui il est. Au lieu de dérouler son CV, au lieu de dérouler tout ce qu'il fait pour Dieu, il dit « Nous n'avons pas respecté. Nous avons péché contre toi. Nous avons failli. » Néhémie, non seulement est conscient de la grandeur de Dieu, mais il est conscient de sa faiblesse, de leur lacune, de leur désobéissance. Il sait que la situation de son peuple est la conséquence de cette rupture avec Dieu. Ils ont bafoué le nom de Dieu, il le sait. Néhémie vient en toute transparence devant Dieu, il ne se maquille pas. Il n'essaye pas de venir devant Dieu avec ses meilleurs atouts. Il ne vient pas sous le meilleur jour. Néhémie vient les mains vides, mes amis. Il vient les mains vides. Le Dieu de la Bible, on se présente devant Dieu avec les mains vides. C'est le seul moyen de nous présenter devant Dieu. On vient avec notre faillite, avec notre profond besoin de grâce, de pardon. Regardez le verset 7, c'est clair, c'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu nous avais données à ton serviteur Moïse. On ne t'a pas écouté. C'est clair, on a failli, on est coupable. Néhémie, il est marqué par l'humilité. Et puis après vient cette requête, hein, et vous allez voir que c'est une requête qui est fondée sur la parole de Dieu. Verset 8, « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. » Souviens-toi donc de la parole que tu as prononcée. Voilà le fondement de la prière de Néhémie, la parole de Dieu. Dieu, voilà ce que toi, tu as dit. Quand on analyse d'ailleurs ces versets, hein, de 5 à 11, cette section, elle est truffée. Elle est remplie de références incroyables sur ce que la Bible dit. On a des citations de Deutéronome, de Lévitique, de Rois, de Chroniques, de Psaumes. Alors même que Néhémie a grandi loin de Jérusalem, je vous l'ai évoqué, dans un déporté, il n'y a plus de temple. Mais voilà, il cite la parole de Dieu, il dit, sa prière démontre ses fondements. Vous savez, la Bible, dans la Bible, il y a des prières où Dieu répond. Dieu répond et Dieu a promis de répondre, vous le savez. J'espère. Il y a dans la Bible des prières où Dieu répond. Et il a par avance prévu d'y répondre. Et c'est ce que fait Néhémie dans cette situation de catastrophe, de désastre. Il appelle à la parole de Dieu. « Dieu, tu as dit ceci !» Néhémie ne vient pas avec ses idées. Néhémie ne vient pas avec toute cette liste de suggestions. « Dieu, voilà ce que tu pourrais faire !» Non, il sait comment Dieu doit intervenir. Il fonde sa prière sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, a promis de faire. C'est un fondement extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu a promis ? Poursuivons, verset 8 toujours. « Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » C'est une promesse de Dieu. Néhémie est en train de dire, regarde, tu as dit ça, tu nous as promis ça. Interviens, interviens. Il rappelle les promesses de Dieu. Néhémie est conscient de qui est Dieu. Je trouve, il me bouscule. Il vient devant Dieu alors qu'il a les mains vides, mais il se présente devant Dieu avec une invitation. Il a dit, Dieu, regarde ce que tu as dit. Je peux te demander ça parce que tu l'as dit, tu l'as promis. Tu es fidèle, tu es bon, tu es généreux. Tu as dit que tu viendrais à notre secours et tu, même si je suis à 1000 kilomètres de Jérusalem, tu m'as dit, je ne sais pas comment, mais tu nous as dit que tu nous ramènerais ici. Waouh ! Et c'est ça le message de toute la Bible, mes amis. C'est la bonne nouvelle qui change tout. On est loin de Dieu, mais Dieu est prêt à nous rassembler. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on a besoin d'entendre et de réentendre. Dieu tient ses engagements envers nous. On est peut-être nombreux ce matin à nous dire, mais moi, je me sens loin de Dieu. J'ai pas fait ce que j'aurais dû. Je suis pas ce que je devrais être. J'arrive pas à vivre comme il me demande, m'appelle à vivre. Moi, je suis à la rue totale. Moi, je sais pas, je sais plus. Je sais pas s'il y a encore un espoir pour moi. Tu vois le nombre de fois où je t'ai désobéi, mon Seigneur. J'ai bafoué ta parole. J'ai négligé ta parole. J'ai négligé ton nom. Je ne connais pas ce Dieu-là. Quand je lisais ça, je me dis, mais est-ce que moi, je suis capable de dire Dieu du ciel, Dieu tout-puissant, Dieu? Est-ce que je connais les promesses de Dieu sur lesquelles je peux m'appuyer quand je suis assis au fond du trou? Mais c'est quand on est au fond du trou que là, Dieu dit, et c'est là que j'agis. Tout comme Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour celui qui est en bonne santé, mais pour celui qui est malade, pour celui qui est au fond du trou. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des gens bien sur tout rapport, qui n'ont aucun problème, qui vont à l'église, qui ont une vie extraordinaire, exceptionnelle. Non, Dieu est le spécialiste des épaves de la vie, des brisés de la vie. Ça, c'est le Dieu de la vie, la Bible. Ça, c'est le Dieu de la Bible, mes amis. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous étiez loin, vous étiez cassés, fracassés, et je viens à votre secours. Plus tu as conscience de ton besoin, de ton éloignement de Dieu, plus tu es en bonne posture devant le Dieu tout-puissant de la Bible, qui veut venir à ta rencontre et te faire grâce. Néhémie le sait, son seul espoir, ce n'est pas sa ferveur, ce n'est pas la bonne tournure de ses prières, ce n'est pas sa bonne liturgie qu'il met en place. Son seul appui, c'est le caractère de Dieu. Je sais en qui je crois. Un Dieu de grâce, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est capable de renverser les montagnes, qui est capable de renverser les grands. Le fait que Dieu a dit que ceux qui sont à la rue, que ceux qui sont en exil, que ceux qui sont éparpillés, que ceux qui sont dans le déshonneur, que ceux qui sont dans le front du trou, au loin, et si vous faites appel à moi, même si vous êtes à l'extrémité du monde, au fond du trou, je vous ramènerai, je vous rassemblerai, j'interviendrai. Waouh ! Pourquoi ? Parce que Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Rempli de grâce, de compassion, de bonté et qui tient ses engagements. Est-ce qu'on croit à un Dieu comme ça, mes amis ? Est-ce qu'on croit à un Dieu comme ça ? Un Dieu qui a promis de venir au secours des pécheurs, des gens qui se sentent sales. Le danger, le problème n'est pas ceux qui sont brisés. Le problème est ceux qui ont la tête haute, qui ne voient pas où est le problème. Et enfin, Néhémie termine avec un dernier argument. Lisons verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Néhémie fait appel toujours à la parole de Dieu, mais au caractère de Dieu, mais maintenant il vient en... C'est le peuple de Dieu. Dieu, ces hommes-là dont on parle, c'est ton peuple. C'est pas le problème de Néhémie, fondamentalement. C'est ton peuple, c'est tes serviteurs, c'est ton problème, Dieu. Dieu, vois-tu l'état dans lequel est ton peuple? Qu'est-ce que les gens vont dire en voyant ce peuple? Si toi, tu n'interviens pas, qu'est-ce que le monde peut dire si cette église est tellement faible, si ton peuple est tellement éparpillé? Il va rien rester de nous. Tu vois toutes les attaques. C'est ton peuple. C'est le même argument que la prière du Notre Père. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, ton peuple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ton peuple. Manifeste-toi, montre-le que c'est toi, le Dieu créateur, qui est aux commandes de ce peuple. Néhémie est en train de dire, Dieu, ta réputation est en jeu là. C'est ton peuple. C'est la gloire de Dieu. Quel homme ce Néhémie qui se tient sur la brèche. Il voit la grandeur de son Dieu. Il voit la profondeur du péché de son peuple. Mais il plaide devant Dieu en s'appuyant sur sa parole, sur ses promesses de restaurer, d'intervenir. Et il rappelle à Dieu sa réputation. Quand est-ce qu'on nous avons prié comme ça? On sait peut-être que des fois, l'église, ça va pas bien. Que nos situations entre nous, nos bisbilles, nos petites accroches qu'on peut avoir les uns les autres. Mais est-ce qu'on réalise que c'est la gloire de son nom qui est en jeu? l'honneur de son nom? Est-ce qu'on aimerait voir Dieu agir pour que ça change? On l'a dit tout à l'heure, on veut que ça change. Mais vous avez vu où ça change? C'est un cœur brisé, un cœur touché par la souffrance, par la misère qu'il voit autour de lui, mais un cœur qui se tourne vers Dieu et qui s'appuie sur le Dieu qu'il connaît, qu'il découvre, qu'il expérimente dans son quotidien. Ce n'est pas ses soucis, ses préoccupations, mais c'est l'honneur de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Verset 11, il conclut, hein. « Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir. » Ils prennent plaisir à quoi ? À craindre ton nom. La crainte de Dieu. Prends plaisir à la crainte de Dieu. Et Néhémie termine avec cette phrase qui peut être bizarre. « Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. » Encore deux demandes, deux choses extraordinaires à la fin de ce passage. Néhémie sait quoi faire. On ne sait pas trop, mais on va le voir dans 15 jours. Il n'est pas en train de prier Dieu, donne-moi une idée dans cette situation. Mais il dit, donne-moi du succès à ma démarche. Il sait ce qu'il va faire. C'est un leader. Il sait comment agir. Il a un plan. Et probablement un plan, enfin c'est sûr, affiné. Non, c'est 3 mois où il était face à Dieu, où il a demandé à Dieu de l'interpeller. Il a un plan, il a des moyens. Il n'est pas en train de dire, Dieu, donne-moi des moyens, donne-moi quelque chose pour que je puisse agir. Parce que j'en ai aucun. Non, il est en train de réaliser qu'il a accès à l'homme le plus puissant du monde. Il le sait. Il est conscient. Je suis prêt. Moi, Néhémie, envoie-moi. Il est volontaire pour que Dieu l'utilise face à la situation qui a été portée sur son cœur. Il est disposé entre les mains de Dieu. Il se dit, Dieu, fais-moi. Utilise-moi. Ça ne peut pas être autrement. Agis. Et on verra le plan qu'il a en tête avec Néhémie 2. Et le texte nous dit qu'il était le responsable des boissons du roi, les chansons du roi, selon vos traductions. Alors, ce n'est pas le technicien qui remplit la machine à coca au coin des rues. Hein. C'est un officier responsable, je l'ai déjà dit, hein, mais quelque part de la sécurité personnelle du roi, le garde-corps de l'époque, l'unité d'élite. Il était au plus proche du roi. Les grands avaient tellement crainte des intrigues, des complots, des empoisonnements, que la charge de celui qui gérait les boissons revenait à une personne en qui le souverain plaçait sa confiance, une confiance totale. Néhémie est cet homme-là, le grand de cet empire perse, dont l'histoire nous raconte des choses qui ne sont pas évidentes. Et Néhémie a un plan, il va le voir, il va aller le voir. Mais avant d'agir, il a plié ses genoux, il a été touché dans son cœur, il est prêt à agir, même au point de risquer sa vie. Et vous voyez la hauteur de sa demande. Permets-moi de gagner la compassion de cet homme. Permets que mon attitude, mes paroles que je vais avoir aient de l'impact sur cet homme. Vous imaginez, vous êtes le secrétaire de l'Élysée. Vous dites, Seigneur, tu vois les lois qui vont passer. Donne-moi la compassion. Que la compassion de cet homme puisse être là pour qu'il puisse m'écouter. Pour que monsieur le président puisse m'écouter. Ça demande des tripes. Voilà comment commence le livre de Néhémie. Alors je sais, on a vu beaucoup de choses. Je propose qu'on prie. Vous êtes d'accord avec moi ? Prions. Seigneur, c'est vrai, on est nombreux à désirer te voir à l'œuvre, te voir agir dans nos vies, à voir ton action. C'est vrai, on a entendu parler de toi, on voit ton action dans la vie parfois des uns et des autres. On l'a entendu dimanche dernier par ces témoignages de baptême. Seigneur, on le voit au travers de ta parole, on voit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es capable de faire. Agis, viens à notre secours. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces promesses, merci pour cet exemple de Néhémie qui regarde à toi, qui reconnaît qui tu es. Merci parce que le bouleversement qu'on va voir au travers de Néhémie ne commence pas avec de grandes choses, mais avec un homme que tu as su toucher, un homme que tu as utilisé entre tes mains, un homme qui avait une position mais qui était prêt à tout perdre pour toi. Seigneur, et je prie pour que tu viennes à chacun d'entre nous, tu viennes nous visiter, tu viennes nous toucher, nous interpeller, nous montrer qui tu es. Nous montrer au travers de ta parole tes promesses à notre égard. Combien tu désires nous restaurer si on est au fond du trou. Combien tu désires nous apaiser. Combien tu désires intervenir lorsqu'on est dans l'impasse de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à prendre de la hauteur, à te regarder, à fixer notre attention sur toi. Aide-nous à être comme des Néhémies dans notre intercession, des hommes de prière, des hommes qui sommes à genoux, qui supplions le roi des rois d'intervenir dans nos vies, dans notre vie d'église, dans notre pays, dans notre monde. Et Seigneur, nous te demandons cela pour la gloire de ton nom. Amen.